Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Cube Radio. L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mêlez-vous à vos affaires. Avec Yves Daou et Michel Girard, Cube Radio.
Le mois de mars marque un peu le premier anniversaire du début de la pandémie au Québec. Cette crise a imposé des pauses économiques aux entreprises et aux commerces du Québec, des tours à bureaux vides, des commerces fermés, des entreprises sur le bord de la faillite. Mais derrière les portes closes, il y a des personnes, là, des acteurs économiques qui travaillent fort à la relance économique. Il y a une personne qui, évidemment, même le premier ministre a dit « on est chanceux d'avoir ce ministre-là ». Donc, je reçois le ministre de l'économie du gouvernement de François Legault, M. Pierre Fitzgibbon. Comment allez-vous, M. Fitzgibbon?
Bien, bon matin, merci, ça va très bien.
Oui. Comment vous avez vécu, vous, toute la pandémie, personnellement? Comment vous avez...
Écoutez, c'était évidemment très, 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 très difficile parce que quand on retourne en arrière, vous l'avez mentionné, on a fermé pratiquement 40 % de l'économie. Donc, de voir tous les entrepreneurs, les entreprises souffrir, les gens aussi, évidemment, malgré qu'il y a eu des bons programmes par les gouvernements, c'est très dur. Très dur de voir, tu sais, ça peut être fragile, hein, une économie. Le Québec, avant la pandémie, on était sur un air d'aller. Nous étions la province avec la plus grande croissance. Et là, d'un coup, pouf, on arrête tout. Alors, beaucoup de stress, beaucoup d'improvisation, il faut avouer. Hein. Il faut réagir, comme on dit, là, sur l'instant du moment.
Alors, mais là, maintenant, est-ce qu'il y a une leçon que vous avez pris plusieurs actions, vous avez été dans l'actualité, vous avez mis des programmes, vous avez bougé sur plusieurs choses, mais y a-t-il une leçon que vous tirez d'action que vous avez prise, puis aujourd'hui, vous regardez, puis vous auriez fait autrement?
Mais je pense que la question d'approvisionnement stratégique. Hein, je pense, moi j'ai vécu la psychose des masques, la psychose des EPI. Je pense qu'on a tous appris de ça et on ne veut plus retourner dans une situation comme ça. Donc des situations difficiles, j'appellerais quasiment catastrophiques. Là, il faut se prémunir dans certains, dans le cas particulier de celui-là, c'est clair que nous étions pas prêts pour adresser les enjeux, des outils nécessaires pour combattre l'ennemi sanitaire. Okay. Ça, c'est clair. Et là, on a fait des choses depuis, mais il faut apprendre à voir où sommes-nous vulnérables. Quand tu vas avoir j'espère qu'il n'y aura pas, hein, puis c'est d'autres fermetures quasiment complètes comme l'économie. Non?
Au début de la pandémie, le premier ministre Legault et même vous avez dit, il y a des entreprises qu'on va pouvoir sauver, puis il y en a d'autres qu'on ne pourra pas sauver. Pourtant, là, quand on regarde là, présentement au surintendant des faillites, il y a très peu de faillites. Bon, évidemment, il y en a, comme aujourd'hui, vous avez vu le groupe Atis, là, c'est quand même un gros joueur dans Porte et Fenêtre au Québec qui se retrouve sur la loi de la protection de la faillite. Mais en réalité, là, est-ce que, avec l'aide de l'État puis tout ça, est-ce que là, pour le moment, vous, avez-vous une bonne idée de ce qui nous attend? Là? Est-ce qu'il va y avoir un hécatombe, comme le dit la Fédération des entreprises indépendantes, qu'il va y avoir une PME sur deux qui va disparaître? Est-ce qu'après l'aide, là, on va avoir une série de faillites? Est-ce que dans votre radar, là, vous voyez des choses qui devraient nous alerter?
Bon, d'une part, je pense que la SCI est un petit peu apocalyptique, honnêtement, sur son constat. Mm-hmm. Je l'ai dit fermement à monsieur Vincent, je respecte beaucoup. Ceci étant dit, je pense qu'il est clair que l'économie, somme toute, va relativement bien. Par contre, j'ai toujours dit que, d'ailleurs, c'est pour ça que le programme de l'ARAM est en complémentarité avec les deux programmes du gouvernement fédéral. Je pense que les gouvernements, en général, au Canada, ont fait un très bon travail parce que, comme vous le dites, aujourd'hui, les fermetures ont été moins nombreuses qu'en 2019. Maintenant, il faut reconnaître que les commerces sont encore fermés, les fameux restaurants, les gyms, les cabanes à sucre, c'est très difficile pour ces gens-là. Et il faut que nos programmes soient modulés. Alors, c'est pour ça que l'ARAM, on l'a mis en place. On essaye de faire de la chirurgie ici là, pour s'assurer que ce qui reste des entreprises qui ont des difficultés, qu'on puisse en sauver le plus grand nombre. C'est sûr qu'on veut pas personne qui ferme ses portes, mais faut admettre qu'il y a des gens qui ferment présentement, qui auraient fermé même s'il n'y avait pas eu de pandémie. Alors, faut faire attention à ça. Mmh. Mais il faut être sensible, et comme gouvernement, je veux pas qu'on apparaisse insensible quand je dis qu'on a des bons programmes. Il faut faire des ajustements pour pouvoir continuer à en faire. Mais somme toute, là, on est dans une situation qui est quand même relativement bonne. Si on peut réouvrir les restaurants et les gyms prochainement, vous allez voir, dans 2 mois, on ne parlera plus de ça.
Nous sommes avec le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, pour parler de 1 an de la pandémie. Je veux vous parler de la relance économique. Parce que, bon, évidemment, il y a l'aide ponctuel d'aider des entreprises actuelles, mais évidemment, ça donne l'occasion au gouvernement actuel de revoir où on va investir pour l'avenir, revoir notre économie. Et vous avez quand même identifié quelques secteurs, là, vous avez quand même fait des annonces. Si vous aviez à miser là, sur un secteur, vous dites, là, quand on va se parler l'année prochaine, vous dites, ça, je vous avais dit qu'on investirait là-dedans, puis voici les résultats. Là, vous avez parlé de l'aérospatiale, vous avez fait des annonces là-dessus, le lithium, le pharma, évidemment, les jeux vidéo, l'intelligence artificielle. Si vous aviez un secteur, vous dites, là, M. Daou, je vais vous parler dans un an, puis ça, c'est celui que j'avais dit qu'on investirait, puis on a eu des résultats, ça serait quel?
Écoutez, c'est très difficile de répondre à cette question-là. Je vais répondre différemment pour revenir à votre question, parce que c'est une très bonne question, mais j'ai pas la...
Vous n'avez pas de boîte de cristal qui vous dit c'est quoi?
Non, mais par contre, j'ai une partie de la solution. Premièrement, vous avez absolument raison. La première chose qu'il fallait faire comme gouvernement, c'est de combattre l'ennemi invisible de la pandémie. Beaucoup de travail a été fait sur ça, on en a parlé. Deuxièmement, il fallait que nous mettions en place des programmes pour complémenter le fédéral, je dis bien complémenter, pour s'assurer que l'écosystème demeure le plus sain possible. Et je pense qu'on a atteint ce objectif-là avec des mesures additionnelles qu'il va falloir faire. Là, maintenant, la relance économique, qu'est-ce qu'il y a de plus important? Il y a 4 mesures qu'on fait, pour en parler de 2. Secteur stratégique, il est clair que le gouvernement doit compenser le manque d'investissement privé dans les secteurs qui sont performants pour le Québec, qui étaient performants avant la crise. Premier point. Deuxième point, il faut numériser, encourager l'innovation. C'est les 2 choses les plus importantes. Après, la balance commerciale qu'il faut essayer d'équilibrer, donc exporter plus, importer moins, et développement économique régional. Si je reviens au stratégique, il y a 5 secteurs importants. L'aluminium, l'aéronautique, les sciences de la vie, l'électrification des transports et nos ressources naturelles, forêts et mines. Dans ces 5 secteurs-là, nous allons mettre pas loin de 200 millions d'argent additionnel dans les prochains 18 mois, pour s'assurer qu'il y ait des projets mobilisateurs, pour qu'on puisse créer des emplois et aussi maintenir les emplois. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que je ne veux pas voir des ingénieurs en aéronautique transférer de secteur parce qu'il n'y a pas assez de projets.
Mm-hmm. Mais la question que je vous posais, je vois très bien, là, mais l'idée, là, c'est que vous les voyez, les secteurs, là, aérospatial, lithium, pharma, celui que vous estimez là, qui est le prometteur, là, puis pour lequel là, vous allez mettre plus d'énergie que d'autres, ouais. C'est quel que vous êtes très sensible, qui vous excite le matin quand vous vous levez, là?
Le côté des électrifications des transports. Pourquoi? Parce qu'on part de loin. Et on a un avantage comparatif incroyable. Nos minéraux, on a le nickel, on a le lithium, on a le graphite, on a l'énergie à beaucoup renouvelable, verte. Alors, on a tout ce qu'il faut pour vraiment devenir, en Amérique du Nord, un joueur important. Par contre, on se bat contre beaucoup de juridictions. Alors, présentement, on a un effort incroyable là-dedans. On a fait quelques annonces au niveau de Nemaska. D'autres, j'espère, s'en viennent. On travaille. J'ai une équipe à temps plein sur ce dossier-là. Alors, l'aluminium, l'aéronautique, on a déjà des acquis. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est s'assurer qu'on continue à mettre la charge dans les batteries en question. Dans le cas de l'électrification du transport, on part de 0. Moi, ultimement, ce que je veux voir au Québec, c'est que nos minéraux se transforment en batterie, au moins pour la consommation des véhicules électriques qu'on va fabriquer au Québec, ne serait-ce que les autobus scolaires, autobus urbains, trains, camions. Donc, je pense qu'on a un projet de société qui est excessivement porteur pour le Québec.
Je reviens sur, évidemment, ce secteur-là de la lithium puis les batteries. Là. Est-ce que il est possible qu'on, dans la prochaine année, qu'on puisse voir déjà le début d'une usine de batterie au Québec?
Bon, écoutez, probablement quand on parle d'usine de batterie, là, je ne veux pas faire de toto de sémantique, mais c'est important, il faut faire attention parce qu'il y a une chaîne qui est très complexe. part du minerai, on doit le transformer. On parle d'hydroxyde de lithium, on parle de sulfate de nickel, on parle de sphérique en orbite graphite. Donc, il y a un processus de transformation. Après ça, on fait des cathodes qui viennent de, en grande partie du nickel et du lithium. On fait les anodes qui viennent du graphite. Après, on a un cellulier qui fait la cellule. Puis après, on a l'assemblage de batteries. Donc, il y a plusieurs morceaux de la chaîne. Je pense que dans, en 2021, notre objectif, c'est d'annoncer, idéalement, dans chacun, pour chacun des maillons de la chaîne des choses. Donc, au niveau du minerai, on a annoncé deux projets, Nouveau Monde Graphite, Nemaska, le nickel va s'en venir. Au niveau de l'assemblage des batteries, on va probablement annoncer des choses dans le prochain mois. Et entre les deux, nous travaillons très fortement avec plusieurs investisseurs stratégiques étrangers qui regardent le Québec et disent « Wow, il y a quelque chose qui se passe au Québec ici. » Et quand on regarde le marché de l'Amérique du Nord, il y a un marché potentiel incroyable. Donc, est-ce que le Québec peut devenir central à une chaîne d'approvisionnement plus courte? Parce qu'aujourd'hui, les cellules sont faites principalement en Asie. Alors, on peut concevoir qu'à un moment donné, ben, ça va être fait dans un environnement géographique beaucoup plus court.
Monsieur Fitzgibbon, je vais vous parler d'un secteur qui est quand même un secteur qui est l'équivalent de l'industrie automobile en Ontario, qui est l'aéronautique. Bon, vous avez vu les annonces récentes de Bombardier qui a quand même coupé des emplois. Évidemment, cette grande entreprise qui était très impliquée dans le... évidemment, les avions commerciaux sont partis. Et là, il reste juste les jets d'affaires avec quand même 13 000 employés. Et rappelez-vous, la division des jets d'affaires de Bombardier, il y avait eu des discussions à une période où ce que ça pourrait être vendu au gérant américain Textron, au moment où il y avait eu des enjeux par rapport à la dette de Bombardier. Si jamais Bombardier décidait de vouloir vendre cette division des jets d'affaires à une entreprise, qu'est-ce que vous feriez?
Premièrement, vous avez entièrement raison. C'est un secteur où on ne peut pas laisser partir des fleurons. On est quand même aujourd'hui dans une situation où il y a beaucoup ce qu'on appelle les Tier 1. On parle des Airbus, on parle de Bombardier, on parle de Pratt & Whitney, on parle de CAE, on parle de Goudevtech qui est rendu un gros joueur. Il faut maintenir cet écosystème-là. D'ailleurs, l'annonce la semaine passée, on était agressé avec Telesat. Bon, Telesat, MDA, ce sont des opérations satellitaires, mais quand même, le satellite, c'est parti de l'aéronautique. Donc, on est content de voir qu'on va créer 600 emplois bien rémunérés. Il faut faire la même chose dans le secteur aéronautique plus traditionnel. Nous ne voulons pas et pouvons pas laisser partir Bombardier, parce que Bombardier, avions d'affaires, ce sont des champions du monde. La société a changé de face, évidemment, on sait tout ce qui s'est passé, mais aujourd'hui, on a une entreprise qui est dominante dans son secteur. Alors, on va tout faire pour que Bombardier reste ici, on va tout faire pour qu'il y ait une croissance, tout comme on va vouloir que le fameux A220 de Airbus qui est fait à Mirabel. Il y a un peu de vent de face présentement, mais il faut s'assurer que cette société-là continue à faire ces avions-là, parce que tout l'écosystème de la chaîne d'approvisionnement québécoise pourra en souffrir. Donc, je suis très sensible.
Bien, vous savez, le chef de la direction financière d'Airbus, là, Dominique Assam, là, a récemment fait ses prévisions là, par rapport, et là, il était un peu inquiet par rapport à la rentabilité du A220. Il dit même que l'objectif est de profitabilité, là, il a reporté ça à 2026, puis il dit que les pertes de l'A220, là, écoute, c'est énorme. Puis pourtant, nous, on est en partie un peu actionnaire de tout ça. Vous n'êtes pas inquiet, vous, par rapport à la situation du A220?
Écoutez, je suis inquiet du secteur au complet parce que ce que le CFO d'Airbus se référait, c'est qu'il y a un décalage. Les sociétés aériennes qui sont en difficulté vont retarder l'achat d'avions. La question fondamentale, c'est est-ce que le A220 est un avion qui est performant et a sa place dans l'écosystème aéronautique civil? La réponse est oui. Je pense que c'est un des meilleurs avions avec le 787, le Dreamliner. Alors, je ne vais pas faire une publicité pour personne. Alors, le A220 est un excellent avion. Là, on a un report de 2 ans, à peu près, sur la profitabilité. Alors, je pense une question, qu'est-ce qu'il faut pour que l'entreprise puisse continuer à performer, et on va regarder avec Airbus ce qu'il y a à faire. Mais je pense que fondamentalement, le programme de 220 n'est pas remis en question ici.
En concluant, je veux terminer. Vous savez, les Québécois sont très sensibles aux questions de nationalisme économique. Là. En fait, c'est devenu comme les matchs des Canadiens, la question de nos fleurons. Les Québécois sont préoccupés par l'avenir de nos fleurons. Je vais revenir sur un dossier que vous connaissez très bien, qui est l'achat de Transat par Air Canada. Hier, le PDG de la Caisse de dépôt a dit déjà clairement qu'il fallait envisager un plan B pour Transat. Est-ce que vous, comme ministre de l'Économie, êtes prêt à soutenir... on sait que l'homme d'affaires, Pierre Calpelado, a déjà indiqué clairement que lui, il est intéressé. Vous, est-ce que vous êtes prêt à embarquer et à appuyer Pierre Calpelado pour être capable de garder le siège social au Québec puis de faire en faire une compagnie nationale au Québec?
La viabilité d'Air Transat est au cœur de nos préoccupations. Bon, Air Canada, on va voir ce qui va se passer. Monsieur Aymon, on se parle, le gouvernement aussi. Il faut qu'il y ait un plan B. Je pense que le management et le conseil d'administration se penchent sur ça. Et dans le plan B, s'il y a une solution québécoise, peu importe laquelle, le gouvernement du Québec va être au rendez-vous.
Monsieur...
Il faut évidemment faire attention, parce qu'il faut juste une nuance. Il faut faire attention, parce que c'est quand même... Il faut c'est une industrie qui a le vent de face, là. Et puis, Air Transat, c'est pas facile ce qui se passe. Donc, c'est sûr, nous voulons intervenir. J'ai été très clair sur ça, même à mes homologues au fédéral. Il faut, par contre, avoir une structure qui tienne la route, là, parce qu'on ne peut pas retomber dans la même situation dans 2 ans. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses majeures qui devront être faites dans l'entreprise en termes de structure de capital, je parle entre autres, si le plan A ne fonctionne pas. Mais définitivement, le gouvernement du Québec va épauler tout Québécois qui est intéressé à reprendre l'entreprise.
Merci beaucoup, M. Fitzgibbon. C'était le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, qui a beaucoup de travail encore à faire pour permettre aux entreprises du Québec de relancer leur entreprise, puis évidemment de relancer l'économie. Bien, je vous souhaite une bonne année, M. Fitzgibbon.
Le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Arrêtez de vous virer sur une scène. Yves Daou et Michel Girard vous rendent la monnaie de votre pièce. Vous écoutez Mêlez-vous de vos affaires avec Yves Daou et Michel Girard. Cube Radio.
Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, j'ai plusieurs cartes de crédit. J'ai des offres qui arrivent dans le courrier à chaque semaine. Puis, je ne sais vraiment pas comment démêler qu'est-ce qui est une meilleure carte de crédit qu'un autre. Donc, pour en parler, je reçois Stéphane Desjardins, qui est chroniqueur en finances personnelles au Journal de Montréal, dans la section « Dans vos poches ». Salut Stéphane.
Bonjour Yves.
Écoute, une majorité de consommateurs là, magasinent leur carte de crédit, puis souvent, ils regardent tout le programme de fidélité, qu'est-ce qui se rattache à ça, des points pour des voyages, des points pour acheter des objets, etc. Est-ce qu'on a une bonne idée de c'est quoi les avantages de ces programmes de fidélité-là qui sont rattachés à ces cartes de crédit-là?
Malheureusement, non. Il y a plusieurs organismes qui s'intéressent à la question. Puis une majorité de Canadiens ne savent même pas le nombre de points qu'ils ont accumulés dans leur compte. Puis surtout, une bonne partie, là, je pense que c'est 38% que j'écrivais dans ma chronique, qui n'ont aucune idée de la valeur de leurs points.
Incroyable.
C'est comme si tu n'avais pas d'idée de la valeur de ta maison. Mm-hmm. C'est quelque chose quand même. Là.
Mais moi, ce que j'essaie de comprendre dans le choix des cartes de crédit, il y en a là, qui, par exemple, des frais d'abonnement annuel, tu en as d'autres qui n'en ont pas, mais qui est-ce que c'est un avantage à aller payer un frais de gestion annuel parce que ça te donne, tu sais, par exemple, plus de points à Aéroplan, ou c'est mieux de n'en payer moins, mais d'avoir plus de résultats à la fin, par exemple, d'être payé en argent, par exemple?
Bien, moi, moi, dire, il y a un vieil adage que mes parents me disaient, puis probablement, Yves, tes parents ont dû te le dire, toi aussi. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Hein? Tu payes pour avoir quelque chose plus tard. Le problème, c'est que les points, là, c'est pas des REER. Il y a plein de monde qui accumule ça, là. Puis là, il y en a des millions de points. Mais avec le temps, les points, la valeur des points diminue. Donc, pourquoi tu accumules des points? On en revient à une seule question. Pourquoi, à quoi elle va te servir la carte? Choisis une carte là, en fonction de tes besoins. Tu t'en sers-tu pour ta commande? Tu t'en sers-tu pour voyager? Tu t'en sers-tu pour rénover? C'est ça en tête qu'il faut que tu choisisses ta carte.
Puis actuellement, là, est-ce qu'il y a une façon pour les Québécois actuellement d'être capable de bien comparer? Parce que bon, là, t'en reçois oui. par courrier, tout ça. Y a-t-il une méthode technologique web qui permet justement de faire cette comparaison-là?
Oui, oui. Je dirais, moi, personnellement, là, pour finir ta première question, je m'excuse de revenir là-dessus,
mais ben, vas-y.
Moi, je privilégie les cartes qui donnent des rabais en argent. Mm-hmm. Parce que tu peux t'en servir pour faire des achats, c'est sonnant, trébuchant. Il n'y a rien de mieux. Hein? On dit souvent que cash is king, mm-hmm. l'argent est souverain. Ben c'est ça. Quand on te donne des petits cadeaux, là, il n'y a jamais rien de gratuit. En général, ce que tu peux acheter, les petits cadeaux, là, c'est ça vaut toujours plus cher que ce que tu allais acheter la même cafetière en magasin. Maintenant, pour sélectionner une carte de crédit, c'est assez simple. Moi, là, dans ma chronique, je mets en ligne quatre outils qui sont des comparateurs en ligne qui sont extraordinaires. Je dirais que le meilleur, c'est celui de Art Bacon, suivi de celui de RateHub, R-A-T-E-H-U-B. Puis protégez-vous le magazine, aussi le sien, puis l'Agence canadienne des outils en matière de consommation, l'ACFC, A-C-F-C. Ces quatre organisations-là ont leur propre comparateur. Tu rentres tes critères là, du genre « je vais avoir une carte qui remet en argent » ou « je vais avoir une carte qui a de bas taux d'intérêt »,« je vais avoir une carte de voyage »,« je vais avoir une carte ». Tu sais, tu as des critères, là, puis eux autres, bing-bang, en temps de le dire, ils te donnent les meilleures offres sur le marché.
Ton choix de carte de crédit, là, est-ce que ça a une influence sur ton score de crédit, par exemple, de Equifax puis TransUnion?
Oui, ben en fait, c'est ton score de crédit qui influence ton choix. Par exemple, il faut comprendre le score de crédit, là, jamais personne n'a un score de crédit parfait. Mm-hmm. Plus tu sors de ta carte de crédit, plus. Si jamais tu ramènes ton compte à zéro, ton état de compte à zéro, bref, tu payes ta carte à tous les mois, tu as bien des chances d'avoir un excellent score de crédit. Mais avant de choisir ta carte de crédit, va te faire venir ton dossier de crédit auprès d'Equifax TransUnion. C'est gratuit par la poste, t'as rien qu'à aller sur le site web. Puis à partir de là, il y a des cartes de crédit qui vont dire... Moi, je ne choisis que les clients qui ont un score de crédit entre, plus de 690, ou plus de 660 plutôt, là, la majorité des cartes exigent un score de crédit qui est considéré comme moyen.
Je vais juste te poser la question. Souvent, là, tu reçois dans ton courrier de traditionnel là, de Poste Canada. Quand, par exemple, tu n'as peut-être pas payé nécessairement ton solde, là, tu reçois des avis souvent de cartes de crédit qui disent « je suis prêt à vous faire des avances de fonds à un pourcentage peu élevé pour payer vos soldes sur d'autres cartes de crédit ». C'est une bonne affaire à faire, ça?
Bien, si tu n'es pas capable de payer ton solde de carte de crédit déjà, bien beau à accepter une offre, peut-être te faire dire « regarde, transfère chez nous ». Tu vas payer 0% d'intérêt pendant 6 mois, mais dans 6 mois, tu risques de te faire ramasser si tu n'es même pas capable de payer ta carte de crédit en ce moment. Hein? Mm-hmm. Entre toi et moi, puis la boîte à bois, là, c'est pas mal ça l'affaire. Là, mm-hmm. Fait que non, la meilleure affaire, c'est d'appeler ton émetteur de carte de crédit puis de dire, regarde, est-ce que tu peux me... je peux-tu changer de carte de crédit pour une carte de crédit avec un bas taux d'intérêt? Mettons, tu as une carte de crédit de 9,5%, ben t'as comme intérêt à passer à une carte de crédit de 9%. C'est sûr que la carte de crédit de 9%, ben, elle te donnera peut-être pas des points bonus pour aller gazer gratuit en partie à toutes les 3 mois, mais ça vaut quoi de gazer gratuit à toutes les 3 mois si tu payes 19% de taux d'intérêt? Ton essence, tu l'as payé 3 fois.
Juste en terminant, tu sais, il y a beaucoup de gens là, actuellement qui ont 1, 2, mais j'en ai déjà vu qui ont 4, 5, 6 cartes de crédit. Est-ce que le fait que tu as accepté beaucoup de demandes de cartes simultanément, est-ce que ça affecte ta cote de crédit?
Totalement. Plus tu acceptes d'avoir des cartes de crédit, plus ta cote de crédit va être affectée. Même si tu payes tes cartes de crédit à tous les mois, le mieux, là, c'est d'avoir 2, 3 cartes de crédit, dont une que tu as depuis tes études au cégep, genre. Parce que plus tu as une carte de crédit longtemps dans ta poche, meilleure ta réputation elle est auprès de la carte et évidemment du bureau de crédit, parce que tu es considéré comme quelqu'un de sérieux, surtout si tu payes ton... La clé là-dedans, là, c'est de payer tes comptes à tous les mois puis de ramener ça à zéro. Mais évidemment, Yves, tu m'as posé la question, c'est bon d'avoir beaucoup de cartes de crédit dans sa poche? Je dirais que les experts disent environ 2, 3 cartes, 3 max. Et la majorité des Canadiens non plus.
Stéphane, la prochaine fois que je vais aller dans ma boîte de courrier, la première chose que je vais faire, c'est quand je vais voir les offres de cartes de crédit, je vais pas les ouvrir, puis je vais les mettre directement au recyclage.
Et chicoteurs.
Stéphane, on continue à te lire dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Donc, Stéphane Desjardins, chroniqueur en finances personnelles pour la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec, dans la section « Dans vos poches ». Merci, Stéphane.
Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Pour que l'argent fasse le bonheur, mêlez-vous de vos affaires avec Yves Daoui et Michel Girard.
Le mois de mars a marqué évidemment un peu le premier anniversaire du début de la pandémie. Cette crise qui a évidemment commencé en Chine en début janvier, mais le Québec a été vraiment frappé en mars. Elle a imposé des pauses économiques aux entreprises dans plusieurs secteurs industriels, les commerçants. Aujourd'hui, on se retrouve avec des tours à bureaux un peu vides, des commerces fermés, des entreprises sur le bord de la faillite. Mais derrière les portes closes de plusieurs de nos grandes sociétés d'État, il y a des acteurs économiques qui s'activent à éviter le pire puis à assurer l'avenir économique du Québec. Or, on le sait, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, c'est un acteur clé au Québec, c'est le bas de laine des Québécois. Elle gère des millions d'argent des cotisants des Québécois à travers 40 déposants institutionnels, dont 8 qui représentent 90% de ses déposants, donc on pense à la Régie des rentes du Québec, à tout ce qui est les caisses de retraite des employés de l'État. Elle a un actif aujourd'hui de 366 milliards, une caisse de retraite qui rend jaloux un peu partout là, les États à travers le monde. Et c'est devenu un rituel annuel pour les journalistes de parler au grand patron de la caisse de dépôt pour nous dire si le slogan de la Banque Scotia « Sommes-nous plus riches qu'on pense ». J'ai le plaisir de recevoir le PDG de la Caisse de dépôt, M. Charles Lémont. Bonjour, M. Lémont.
Bonjour, M. Daou.
Merci pour cette première entrevue à notre émission. D'abord, comment vous allez personnellement avec cette pandémie-là, vous? Comment vous avez vécu ça?
Ah, ben c'est gentil de demander. Écoutez, ça a été, comme pour plusieurs Québécois et plein de gens dans le monde, une année unique qu'on va se rappeler toute notre vie. Mm-hmm. Quelques semaines, 4-5 semaines après avoir été nommé président, les lumières ont fermé partout dans le monde, instantanément. Donc, c'est pas comme une récession qu'on a le temps de voir venir un peu. Ça a été subi pour tout le monde. Puis, ça n'a pas seulement affecté nos vies professionnelles, ça a affecté nos vies personnelles. Mm-hmm. Alors, c'est certain que de travailler de chez moi, une bonne partie du temps, s'assurer que la caisse est opérationnelle à distance, parce que dès ce moment-là, les marchés étaient en hausse, en baisse, c'était très volatile. Ben, c'était une expérience unique. Je dis toujours, si mon chef des risques m'avait décrit un tel scénario, on fait toujours des tests de tension pour imaginer les pires scénarios, m'avait décrit celui-là, j'aurais peut-être dit que ça ressemble plus à un film de science-fiction qu'à un scénario probable. Alors, ça a été une année particulière, mais je dis toujours en même temps qu'il faut accueillir ça quand ça arrive, malheureusement, en ce sens que c'est un test de validation extrêmement utile. C'est plus théorique. On voit ce qui fonctionne très bien dans l'organisation, ce qui est solide, puis on voit où est-ce qu'on a des aménagements, des ajustements à
faire.
Monsieur
Aymon, est-ce que la Caisse était prête à faire face à cette crise-là dès le départ? Puis y a-t-il quelque chose que vous allez changer compte tenu de ce que vous avez vu par rapport à cette crise-là qui a frappé aussi rapidement, de la façon que vous allez investir dans l'avenir?
C'est difficile de se préparer à une pandémie, je vais vous avouer, parce qu'on n'en avait pas eu depuis un siècle. Mais néanmoins, on était-tu bien préparé? Je dirais qu'au niveau de notre solidité financière, nos liquidités, l'organisation avait appris les leçons de 2008. Et on s'est retrouvé dans une situation que je dirais même par rapport à certains de nos pairs, on a vu l'importance d'avoir des liquidités pour pouvoir profiter d'une crise. Mm-hmm. Ce qu'on a fait. J'aurais aimé en profiter plus, honnêtement, parce que elle a été courte en même temps. Les banques centrales sont venues tellement rapidement refermer ça que ça a duré quelques semaines. On a fait moins 30 % à la bourse en 30 jours, mais on est remonté par la suite. Même chose dans le marché du crédit. Fait que ça, de ce côté-là, on était presque, on avait une bonne gestion de risque, une culture prudente. De l'autre côté, je regarde après ça, qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer? Peut-être que je dirais qu'au niveau de notre portefeuille marché boursier, se donner un petit peu plus d'outils ou de cartes dans notre jeu pour avoir, je dirais, un équilibre dans les styles d'investissement qu'on aura toujours resté prudent, un investisseur à long terme, on gère les épargnes des Québécois, mais avoir un petit peu plus d'exposition à différentes sortes de choses, dosage.
Donnez-moi donc un exemple d'une carte que vous auriez aimé ça jouer.
Ben, on regarde, par exemple, les titres technologiques qui ont eu une réaction à la hausse très forte pendant ces confinements-là. On dit souvent les titres technologiques, là, sur les mêmes titres qui nous viennent en tête, les GAFAM, mais je dirais qu'il y a une numérisation de l'économie. Alors, c'est de s'ouvrir sur des nouveaux modèles d'affaires qui viennent bousculer des modèles d'affaires traditionnels. C'est de s'exposer et bien comprendre ces nouvelles sociétés-là parce qu'elles amènent un élément. Il faut avoir des valeurs défensives, des valeurs qui ont une faible volatilité. Il faut avoir aussi des valeurs qui ont un profil de croissance. Donc, je dirais avoir un meilleur dosage pour qu'on performe dans encore plus de circonstances. Ça, ce serait un exemple. Portefeuille immobilier aussi vient en liste de tête également, vous avez vu.
Rendement de moins 15 % commerciaux.
Mm-hmm. Ben oui, exactement. Alors, quand on regarde ça, un portefeuille immobilier, on ne peut pas modifier ça dans un long week-end, comme on dit. C'est plus long de par la taille, la nature des actifs. Mais c'est de voir, est-ce qu'on avait peut-être plus de centres commerciaux que j'en aurais voulu? La réponse est évidente. Alors, est-ce que l'immobilier est toujours important dans le portefeuille? Oui. Nos déposants en veulent. L'humain va toujours devoir occuper l'espace. On va peut-être le faire différemment. On avait peut-être un peu trop de centres commerciaux, mais à l'origine, Ivanhoé Cambridge, c'est ce que c'était, un opérateur de centres commerciaux. Alors, continue d'évoluer là-dedans.
Je veux revenir sur les prévisions pour l'année. La Caisse de dépôt là, est une caisse de retraite là, la plus réputée dans le monde. Vous avez une équipe de spécialistes en finance qui connaît tous les aspects. Vous avez des prévisionnistes, des économistes. Qu'est-ce que la boule de cristal ou votre boule là, regarde présentement puis qu'est-ce qu'elle voit pour les prochains mois? Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose qui vous dit là, on s'en va vers... Vous la voyez quand, la reprise économique au Québec?
Oui, quand on regarde nos projections officielles, on prévoit une réouverture puis des niveaux, atteindre des niveaux du PIB pré-COVID, là.
Oui.
Je dirais à peu près, disons début 2022, fin 21, début 2022 pour le Québec et le Canada. Le Québec avant le Canada, un petit peu plus tôt, puisque le Canada a encore le secteur pétrolier qui, lui, mine sa performance globale. Plus tôt que le Québec, donc je dirais troisième trimestre pour les États-Unis, parce qu'ils ont un plan de vaccination quand même qui est assez rapide. Ils ont quand même des plans, des stimulus là de fiscaux. Il y a un plan de 1,9 trillion qui est lancé par l'administration Biden. Donc ça va quand même jouer en leur faveur. Si vous me demandez maintenant plus terrain, où on voit la bourse, vous savez, l'année dernière, je vais commencer avec 2020 avant de vous parler de 2021, la première moitié d'année puis la deuxième moitié d'année étaient très différentes pour la caisse. Dans la deuxième moitié de l'année, on était en ligne avec l'indice global. On voit depuis qu'il y a eu l'annonce de vaccin, il y a une grande rotation dans les secteurs qui reviennent en force. Alors, c'est plus juste la technologie. On voit les financières avec les taux de 10 ans qui commencent à remonter. On voit même le pétrole. Vous savez, le pétrole, c'était un vendeur, fallait que tu payes l'acheteur pour prendre du pétrole. C'était un prix négatif. On est rendu à 60-70, puis il y a déjà des projections qui parlent de 100 $ le baril, encore une fois. Une grande volatilité.
Donc, vous allez réinvestir dans le pétrole?
Non, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que c'est juste pour illustrer comment c'est une année d'extrême. Mmh. Non? Parce que dans le pétrole, on diminue nous constamment. Mmh. À terme, on n'y croit pas. Puis on a déjà fait beaucoup de mouvements en ce sens-là. Mais je regarde pour cette année, puis je vous dirais, on a des taux d'intérêt au plancher. Mmh. Des valorisations d'un marché boursier qui sont au plafond. Puis encore quand même des pans entiers de l'économie qui sont fermés. Vous savez, on a des aéroports, des centres commerciaux, oui. Des bureaux. Alors, il y a une certaine prudence à avoir en 2021. On sent qu'il y a un changement de rotation dans certains secteurs. Et d'ailleurs, hier, on le voyait cette semaine, au niveau technologique, il y a une modération qui s'inscrit. C'est pour ça qu'il faut être diversifié dans le portefeuille.
Nous sommes avec le PDG de la Caisse de dépôt et de placement du Québec pour parler, évidemment, d'un an après la pandémie et comment la Caisse de dépôt joue ses cartes dans cette année qui est quand même difficile. Je veux vous parler d'abord et avant tout là, des placements privés. La Caisse fait de plus en plus de placements privés. On a vu là que vous avez un actif d'un placement privé de 64 milliards, un rendement de 20 %. Quels sont ces placements privés-là qui donnent des si bons rendements que ça?
C'est un portefeuille que je connais bien parce que c'est ce dont je m'occupais avant d'être président à la Caisse. Vous savez, c'est des investissements en actions, comme pour les entreprises à la bourse, mm-hmm. avec des entreprises privées. Ce qui arrive ici, c'est qu'on est dans un niveau de proximité beaucoup plus élevé. C'est gré à gré avec des entreprises. On les connaît, on leur parle, on regarde leurs projections, leurs plans d'affaires, on intervient avec elles, même au niveau opérationnel. On a souvent des membres sur le conseil, de nos membres sur le conseil d'administration. On les accompagne. C'est une relation de proximité. Et je donne un exemple, ça va être des entreprises qui souvent, on les identifie, sont à un moment dans leur progression, ils ont moins de sources de financement, ils ont quelques banques, ils ne sont pas encore à la bourse. Et nous, on arrive, on les accompagne, on devient un actionnaire de référence, on les guide, on leur ouvre des portes. Par la suite, souvent, ils se rendent, ils deviennent souvent migrés vers les marchés publics. On pense à Lightspeed cette année, on pense à Nuvei. Il y a plusieurs autres histoires comme ça au Québec. D'ailleurs, le Québec Inc. est en train de transitionner vers ces sociétés de la nouvelle économie. Et nous, ben, on permet d'investir à un moment donné où est-ce qu'ils sont, pas un stade trop tôt qui serait trop risqué, mais un stade assez avancé. Où est-ce qu'on a confiance sur la suite des choses? Puis là, avec le plan d'affaires qu'on réalise, puis les amener à la bourse, on réalise une plus-value. C'est quand même un type d'investissement qui est plus risqué que des obligations du revenu fixe, mais c'est à peu près le même genre, c'est un peu plus risqué peut-être que je dirais certaines sociétés à la bourse, mais c'est dans la catégorie actions. Et c'est pour ça que quand on regardait un marché boursier, dans le titre public, on est un peu plus défensif.
Mais avant, M. Aymon, avant d'investir dans ce type de placement privé, là, vous savez, là, que, comme vous l'avez dit, c'est souvent plus risqué. À la Caisse, vous avez un comité des risques qui évalue là, avec toute votre équipe là, les risques pour l'argent des Québécois. Évidemment, vous avez eu des investissements qui ont été quand même risqués dans le Cirque du Soleil. Vous avez fait des investissements risqués dans McInnes. Vous avez fait des investissements risqués aussi dans WeWork. Puis je pense qu'il y a quand même des choses qui se sont passées au niveau de WeWork. Ce comité des risques-là, là, évidemment, quand vous faites l'analyse de tout ça, pourquoi les Québécois peuvent pas avoir accès aux documents qui parlent justement de l'évaluation que vous faites des risques dans ces placements-là?
Bien, écoutez, premièrement, c'est des transactions, c'est des sociétés de nature privée. S'il fallait révéler publiquement toutes leurs informations, les éléments concurrentiels là-dedans, ces sociétés-là ne voudraient pas interagir avec la caisse. Là. S'ils sont privés, c'est parce qu'elles ne veulent pas, elles n'ont pas de divulgation publique. Alors, vous comprenez que c'est même pas une question de la caisse, c'est plus au niveau de ces sociétés-là également.
Non, mais on mettrait pas en doute le jugement de la caisse. C'est juste que les Québécois puissent comprendre que si la caisse y va, on comprend c'est quoi les risques. Comme par exemple, une cimenterie à part Daniel, puis en plus, à la fin, la caisse est retrouvée comme opérateur, ce qui n'est pas vraiment le rôle de la caisse. Il me semble que c'est important de parler de ça aux Québécois.
Mais je pense que je suis assez transparent quand je parle aux gens de ce qu'on voulait faire. Quand on regarde une société comme McInnis, vous savez, on regarde souvent à travers la lentille, les placements au Québec, la caisse, sont ses meilleurs placements de l'institution. Alors ça, c'est la première chose que j'aimerais que les Québécois soient rassurés. Nos placements ici sont nos meilleurs placements depuis des années dans toute l'organisation. Alors, il y a certaines exceptions. Puis un McInnis, vous avez vu cette année, on réussit à la fin, je suis d'accord avec vous, on n'aurait pas dû se retrouver à la fin un opérateur d'une cimenterie. Je l'ai mentionné plusieurs fois. Mm. Puis quand arrive, la caisse ne gère pas ces sociétés-là. On est un investisseur. Mais quand la société ne performe plus, ben là, on s'implique pour trouver une solution. Puis dans le cas de McInnis, c'était une solution, de mon point de vue, pratiquement inespérée. En pleine COVID, on a trouvé le meilleur opérateur pour ça. Et au lieu d'avoir un actif seul déficitaire, il est maintenant au sein d'une co-entreprise, un opérateur stratégique qui fait de l'argent depuis 100 ans dans des cimenteries. Et on est au sein d'une co-entreprise maintenant qui est très profitable. Donc, on protège le capital des déposants, puis on va faire du rendement sur cet investissement-là. Donc, moi, de ce côté-là, ce que je dis, c'est que ça arrive, il y a une ou deux, trois situations. Vous savez, on est dans plus de 700 entreprises au Québec. Mm-hmm. Les 700 peuvent pas toujours aller bien. On parle souvent des 2-3 qui vont mal, mais en général, je vous dirais, ce sont nos meilleurs rendements à la caisse, c'est ça au Québec.
Monsieur Aymon, les Québécois sont très sensibles aux questions de protectionnisme économique. Le nationalisme économique est en forte hausse au Québec. On a vu, ouais. Il y a eu les enjeux avec Bombardier, on a eu les enjeux avec le Cirque du Soleil, etc. On voit qu'il y a quand même de l'intérêt pour les Québécois. J'ai une question pour vous. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de la perte, justement, de nos fleurons? Puis une question, là, il y a pas d'obligation pour SNC-Lavalin de maintenir son siège social au Québec après 2024. Qu'est-ce que va faire la Caisse pour empêcher que le siège social de SNC-Lavalin ne déménage pas à Londres?
Bien, il y a peut-être deux volets dans votre question. Le premier, au niveau du nationalisme économique, je pense que c'est bien d'avoir cette fierté-là de vouloir garder nos sièges sociaux. Moi, je peux vous dire, c'est une vigie de tous les jours. Et puis ces dossiers qui sont avec mon équipe, mais dans lesquels ils sont sur mon bureau. On fait une vigie constante d'à peu près 70 sièges sociaux au Québec, où est-ce qu'on sait d'avance qu'est-ce qu'on ferait dans telle et telle situation. Donc, on les suit de très, très près. Je vous dirais aussi, avant de répondre à SNC-Lavalin, la meilleure défensive, c'est l'offensive. Quand on fait croître Couche-Tard, quand on aide CGI, quand on aide WSP, quand on aide un CAE, quand on aide un Intact, c'est de grossir qui est la meilleure défensive, puis de s'exporter, en fait, à l'extérieur du Québec. Toujours exporter le Québec, importer les rendements. Et quand ça, une société nous présente ce type de projet-là, je peux vous dire, on y va avec conviction, puis avec force, puis rapidement. En SNC-Lavalin, vous avez raison, c'est un dossier quand même qui a eu sa part d'enjeu dans les dernières années. On est très impliqué, on est l'actionnaire de référence à juste en dessous de 20%. Et vous avez raison, je veux dire, moi, je le verrais à l'inverse. Dans aucune des sociétés, en général, il y a de quoi de contractuel, comme il y a dans le cas de SNC-Lavalin, de maintenir le siège social. Je vous dirais, vous savez, les exécutifs de Québec Inc. sont fiers d'être ici puis veulent garder le siège social ici.
Donc, c'était Charles Aymon, PDG de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Et merci beaucoup pour l'entrevue. Et on se reparle probablement plusieurs fois, mais on se donne ce rendez-vous annuel en février.
C'est noté. Je vous remercie, M. Daou.
Merci. Au plaisir. Au revoir.
Au revoir.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mêlez-vous vos affaires. Cube Radio.
C'est la période des REER et du CELI. Et évidemment, il y a beaucoup de discussions autour des fonds de travailleurs. On le sait, les privilèges dont jouissent les fonds de travailleurs, à savoir les crédits d'impôt auxquels ils ont droit. Là. Donc, pour parler de tout ça, j'ai notre chroniqueur du Journal de Montréal, Daniel Germain, qui se spécialise en finances personnelles. Salut, Daniel.
Salut, Yves.
Tu nous rappelles là, dans ta chronique que les cotisations REER à un fonds de travailleurs donnent droit à d'importants crédits d'impôt. On parle de 30 à 35 dès le départ. Si tu n'étais pas à mettre ton argent dans ces fonds-là, ce serait tout un contrat de battre ces REER-là de façon ton REER ordinaire.
Oui, tout à fait. Disons que les contributions dans un REER d'un fonds de travailleurs comme celui de la FTQ ou de la CSN, on part avec 30 et 35 clair dans les poches, donc il n'y a pas d'impôt là-dessus. C'est un gros avantage et ça prend des années et des bons rendements pour aller chercher ça. Je dis pas que c'est impossible, là, au contraire, mais il faut du temps et des bons rendements. Et c'est ce que j'ai voulu faire dans ma chronique d'aujourd'hui. Je me suis attardé à certains calculs avec un spécialiste. On voulait évaluer quel rendement supplémentaire ça prend dans un REER ordinaire pour rattraper un REER qui part avec une avance de 30%. Et ça prend quand même des rendements élevés et ça prend beaucoup de temps. Et c'est les résultats auxquels on est arrivé. Par exemple, si le fonds de l'FTQ, par exemple, qui offre un crédit d'impôt de 30%, on imagine un rendement de 4%. Fictif, mais ça, c'est le rendement un peu plus élevé que le rendement de 20 ans de fonds de FTQ. Ça prend un rendement, maintenant, avec un rendement de 6% dans un REER normal, il faut 20 ans.
20 ans pour être capable de rattraper ça. Incroyable.
Oui. Et donc, et 6% pendant 20 ans, inutile de dire que ça prend un bon gestionnaire de portefeuille parce que 6% année après année composé, après des frais. Donc il faut être bon à la bourse. Cela dit, écoute, on ne sait pas c'est quoi les rendements à venir du fonds d'FTQ. Dans les années 2000, en 2000 et 2010, les rendements du fonds d'FTQ étaient de 0,06%. C'est pour ça à cette époque-là que les conseillers nous disaient écoute, mets de l'argent dans les fonds de travailleurs juste quand tu es près de la retraite parce que les rendements sont pas assez bons, mais tu vas avoir ton 30%. Mais depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, les rendements sur 10 ans sont de 7%.
Puis le dernier, le rendement, c'était à 11%.
Oui, c'est des rendements assez élevés, mais il faut dire que aussi, comme ils ont eu une grosse drop à la fin des années 2010, ils ont profité d'un rebond de l'économie dans les années suivantes. Mais on n'a aucune idée de ce qui va se passer dans les années à venir, là, avec l'état de l'économie, dans les PME. On sait que le fonds investit beaucoup dans les PME du Québec. On verra ce que ça va donner, mais toujours est-il que quand on part avec 30% qui est garanti, lui, c'est sûr que tu l'as ton 30%. Alors que la bourse te garantit rien. Je trouve que ça reste quand même des bons placements. Mais bon, il n'y a pas juste du bon non plus.
Mais là, ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup d'avantages. Écoute, déjà au niveau du rendement, puis c'est quand même intéressant. Tu sais, attendre 20 ans pour avoir un rendement similaire. Mais y a-tu des inconvénients à mettre tout son argent dans les fonds de travailleurs
D'abord, il y a des limites. On ne peut pas mettre tout son argent dans les fonds de travailleurs. On peut juste mettre 5 000 $ dans un fonds de travailleurs par année. Et puis, les fonds de travailleurs eux-mêmes sont plafonnés. Tu vois, le fonds de solidarité ne prend plus de cotisations forfaitaires depuis la semaine dernière. Le fonds est fermé pour la période REER 2020. Et c'est comme ça depuis quelques années. Là, cette année, ça a fermé un peu plus tard que l'année dernière. L'année dernière, c'était avant la fin de l'année. Donc, y a cet élément-là, mais aussi, c'est que ton argent, il est comme immobilisé dans le fond. Hein. On peut pas redéployer son argent en fonction de ce qu'on peut observer sur les marchés boursiers. Un investisseur n'aimera pas ça parce que ton argent est comme figé là. Mmh. Quelqu'un qui est bon à la bourse et qui aime investir et qui aime suivre l'économie, il va toujours préférer se passer de ce 30%-là et aller tenter de battre ça en faisant ses investissements lui-même. Et évidemment, on l'a vu aussi. Continue, peut-être ta question.
Oui. Non, mais moi, je voulais juste te revenir sur peut-être une idée. Là. À un moment, ça avait circulé l'idée que la Caisse de dépôt, qui est quand même le bas de laine des Québécois, là, il y a tous les fonds de travailleurs, mais pourquoi on n'aurait pas un exemple de fonds de l'indice de la Caisse où que les Québécois pourraient mettre de l'argent là-dedans et avoir un crédit d'impôt, puis profiter aussi des rendements que la Caisse offre? Ce ne serait pas une bonne idée, ça, d'avoir un fonds Caisse de dépôt?
Ben, en fait, on profite déjà d'un fonds de caisse de dépôt avec le régime de retraite, la Régie des rentes du Québec. Notre argent est investi à la caisse de dépôt. Si on voulait en plus
en mettre plus
dedans avec un crédit d'impôt, ben, en fait, il faudrait que le gouvernement fédéral et que le gouvernement provincial soient d'accord à offrir un crédit d'impôt sur des contributions dans un fonds pareil. Inutile de dire qu'en ce moment, je pense pas que les gouvernements vont faire des cadeaux fiscaux à une époque où ils vont vouloir chercher des revenus. C'est étonnant. Mm-hmm. Mais c'est sûr que ce qui est bien avec la Caisse de dépôt, c'est qu'il investit à la bourse, il investit dans les infrastructures, il a accès à des actifs que nous, le contribuable ou le petit épargnant, auquel on n'a pas accès. Mais c'est une question, c'est une bonne question. Et peut-être que ça reviendra un jour quand les finances publiques iront bien.
Daniel, je veux te revenir sur ta chronique de cette semaine touchant le pourboire à la livraison à la maison, qui était une chronique très lue. Rappelle-nous le fond de ton idée sur la question des pourboires à la livraison.
Ben, en fait, moi, je suis toujours dans les pourboires à des livreurs. Je n'ai jamais su combien, par contre. Et c'est l'idée de cette chronique-là m'est venue quand j'ai commandé des repas pour la famille par Internet qui a été confirmé par téléphone. Et le type au téléphone me dit « Combien voulez-vous donner en pourboire au livreur? » Et je me dis « Mon Dieu, comment on donne au livreur? » En fait, je donne un truc au hasard à chaque fois. Là, je suis allé voir et comme on commande beaucoup, tout le monde commande des repas en livraison, je me suis dit que ce serait un bon sujet pour la période. Donc, ce que j'ai cru comprendre, moi, en fait, c'est qu'il faut donner 10% de pourboire de la valeur de la facture aux livreurs. Mais c'est des livreurs qui sont employés des restaurants, qui sont des employés, qui sont payés au salaire minimum par un restaurant, et qui se font dire par leur employeur qu'ils vont avoir du pourboire pour compléter ta rémunération. Mais à travers tout ça, il y a les DoorDash et les Uber Eats et tout ça, qui travaillent, c'est vraiment un autre modèle, où ils sont payés à la livraison, au kilométrage et tout ça. Et eux, je ne l'ai pas abordé dans le texte, mais souvent, il faut vous donner le pourboire avant de commander. Peuvent décider. Donc, le livreur peut décider de prendre ou non la livraison.
Autrement dit, quand quelqu'un vient de DoorDash ou de Uber Eats, tout ça, là, ce serait fou de leur donner du pourboire compte tenu déjà des frais astronomiques que chargent déjà ces compagnies-là. Là.
C'est pas passé par une application comme celle-là. Mm-hmm. Moi, je l'ai fait une fois dans ma vie. Je les ai enlevés de mon téléphone. Et quand je peux, j'appelle, je vais chercher où je commande la pizza ou du poulet avec les livreurs, mais du restaurant, mais moins possible avec ces applications-là.
Parfait. Donc, merci. C'était Daniel Germain qui, on continue à te lire là, comme chroniqueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec au niveau des sujets de finances personnelles. Merci, Daniel.
Merci.
Cube Radio.